Dans ma tête, j'avais tout fait comme il fallait. J'allais aux rendez-vous médicaux, je faisais les examens qu'il fallait, je prenais les médicaments comme il fallait. Et donc, pour moi, c'était pas logique, injuste, que ça revienne avant les 5 ans de traitements hormonaux obligatoires. La force de caractère ou la force que j'ai pu démontrer pendant la maladie, je l'ai toujours eue. Jusqu'à présent, je n'avais pas eu besoin. Donc, je ne m'étais pas forcément rendu compte de la superwoman que j'étais. Et je pense que tout le monde a ça en soi.
La voix de cette superwoman, c'est celle de Danae Korevou. Cette lumineuse et courageuse jeune femme nous avait raconté son long et touchant combat contre le cancer dans l'épisode 22 de ce podcast. Après 7 ans d'une lutte sans relâche, elle s'est éteinte, paisiblement, entourée des siens le 6 mai dernier à l'âge de 31 ans. Nous pensons très fort à ses proches qui ont eu la chance de la côtoyer. Et nous lui dédions cet épisode. On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les mots qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirs London, les cliniques Boisserre et Cécile, et le quotidien 24h. Imaginez que votre corps commence à se dérégler sans raison apparente. Fatigue, irritabilité, troubles de la concentration, des yeux étranges, une humeur vacillante et un quotidien qui déraille. Et si la trouble faite n'était autre qu'une petite glande nichée dans le cou, la thyroïde ? En Suisse, entre 1 et 4% de la population est concernée par une hyperthyroïdie, une pathologie plus fréquente chez les femmes, aux symptômes souvent flous et mal interprétés. C'est ce qui est arrivé à Clara, une enseignante de 43 ans. Elle pensait faire un burn-out, mais son corps, lui, disait tout autre chose.
J'avais comme des bouffées de chaleur, j'avais de la fatigue. Je me sentais surchargée, j'étais un peu plus irritée. J'avais l'impression que je m'énervais plus facilement avec les élèves. Et puis ce que j'avais observé aussi, c'était mes yeux étaient un peu plus grands, ouverts que d'habitude. À la base, j'ai des petits yeux un peu bridés. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais finalement, à l'hôpital ophtalmique, ils m'ont dit que j'avais rien, que j'avais peut-être les paupières un peu enflammées. Et ils m'ont juste donné une pommade pour mettre au-dessus des paupières. Et puis, quand je suis sortie de là-bas, je me suis dit, je dois quand même avoir quelque chose parce que moi, je vois bien, donc je me connais mon corps. Et puis après, pour mon histoire de fatigue, surchargée et tout ça, je me suis dit, c'est peut-être parce que j'ai une classe un peu plus difficile que les années précédentes. Mais pourtant, je suis une personne très patiente. Et là, en fait, j'avais l'impression que c'était moins le cas. Mais je me suis dit, est-ce que je suis en train de faire un burn-out ? Mais vu que je n'ai jamais fait de burn-out, je ne savais pas trop non plus si c'était ça. Ça fait un moment que j'envisage d'avoir un enfant avec mon mari. Et on a essayé plusieurs inséminations. On en a essayé 6. La troisième fois, il y a eu une grossesse, mais c'était extra-utérine. Et du coup, on a stoppé tout de suite le processus. J'ai toujours un peu réfléchi à la fécondation in vitro, mais je n'ai jamais pris les choses en main pour faire les démarches. Et j'ai aussi fait une pause parce que c'est vrai que les inséminations, ça demande beaucoup de... Ça fatigue psychologiquement, c'est un stress en plus. Et après, je suis allée voir la gynécologue. pour dire qu'avec mon mari, on était prêt à faire les démarches et le traitement de la fécondation in vitro. Et bien sûr, au début, ils font toutes les recherches, prise de sang, etc., où ils font vérifier la thyroïde. Et c'est là qu'elle a découvert que j'avais une hyperthyroïdie. Et c'est elle qui m'a dirigée vers le médecin, l'endocrinologue.
Le professeur Maurice Mater, spécialiste FMH en chirurgie viscérale, avec une sous-spécialité en chirurgie endocrine à la clinique Cécile.
C'est une glande qui est dans le cou. Sa fonction principale, c'est de fabriquer des hormones qui vont gérer l'énergie du corps humain. Et quand on parle d'hyperthyroïdie, ça veut dire que la glande fonctionne trop fort, et donc elle produit trop d'hormones, et on arrive à cet état d'hyperthyroïdie qui est l'image que j'utilise pour les patients, celle d'un chauffage central qui marche trop et en été. Donc on dépense beaucoup d'énergie de manière inutile et on va avoir beaucoup de symptômes indirects qui ne font pas tout de suite penser à la thyroïde. Toutes les maladies thyroïdiennes sont assez lentes et assez frustes, y compris l'hyperthyroïdie qui s'installe progressivement. Et comme ça agit sur tout le corps, on va se retrouver en fait avec chaque organe, chaque sous-spécialité qui peut être concernée. Si vous avez les intestins qui sont trop stimulés, vous avez des diarrhées. Donc à ce moment-là, c'est le gastroentérologue qui devra penser devant une diarrhée inexpliquée, ne jamais oublier la thyroïde. À l'inverse, si vous avez les intestins qui sont bloqués, une constipation qu'on n'explique pas, il faut aussi penser qu'éventuellement on est en hypothyroïdie cette fois où le chauffage ne marche plus. On prend du poids, on accumule de l'eau et c'est un état qui est aussi extrêmement dangereux.
Rappelez-vous, Clara, elle, en plus de tous ces symptômes, se plaignait aussi d'avoir des yeux un peu étranges. Et elle ne rêvait pas.
C'est assez particulier puisque la graisse qui est située dans l'orbite derrière l'œil a des récepteurs aux anticorps, puisque certaines maladies hyperthyroïdiennes correspondent en fait au corps qui veut lutter contre la thyroïde. Donc elle développe ce qu'on appelle les anticorps. Et ces anticorps ont aussi des récepteurs dans la graisse rétro-orbitaire. Donc ça veut dire que l'œil est en quelque sorte poussé en avant par la prolifération de cette graisse avec de très gros soucis, puisqu'on a un œil qui peut sortir, on a ce qu'on appelle des yeux globuleux. Et le gros problème, c'est que les paupières n'arrivent parfois même plus à fermer complètement, à obturer l'œil avec des risques pour la cornée. Pour les orbitopathies sévères, à ce moment-là, l'ophtalmologue va être important. Et ensuite, le bilan indispensable passe par un spécialiste qui est un endocrinologue, spécialiste de toutes les glandes, et lui va établir des investigations, un diagnostic, et c'est en fonction de ces investigations qu'on va décider déjà quel va être le traitement, si un traitement est nécessaire, et de nouveau la chirurgie peut être une de ces armes thérapeutiques.
Il a effectivement confirmé que j'avais de l'hyperthyroïdie, parce qu'il m'a refait des contrôles et des prises de sang. Il m'a parlé de l'option d'opération ou de traitement. Et il m'a aussi clairement dit que, vu que je venais par le biais d'une gynécologue, il savait très bien que mon but était d'avoir un enfant et puis de ne pas attendre longtemps. Donc le temps presse. Il m'a dit, soit vous avez l'option de vous faire opérer et ça accélère vos démarches et puis ça vous donne plus de chances d'avoir un enfant. Soit vous prenez le traitement et puis on ne sait pas combien de temps, quelle durée, et ça vous diminue vos chances, voire annule la possibilité d'avoir un enfant. J'ai tout de suite dit, moi c'est sûr, je veux faire l'opération, je ne vais pas prendre des traitements à long terme, je sais déjà que je veux faire l'opération. Et il m'a dit, non madame, mais là on se voit pour la première fois, vous allez réfléchir, discuter avec votre mari. Enfin, on va en rediscuter. Là, je vous donne juste les deux options que vous réfléchissiez entre-temps. Et moi, j'étais clairement déjà décidée à ce moment-là. Je savais très bien que je voulais faire l'opération et pas attendre.
La thyroïde, il y a un côté droite et un côté gauche. Et donc, si tout le problème se situe à droite, on peut très bien enlever qu'un côté de la thyroïde. L'autre côté sain va rester jusqu'à la fin de la vie de la personne parce qu'un seul côté suffit pour fabriquer assez d'hormones. Par contre, si par un examen qu'on appelle une scintigraphie, sans rentrer trop dans les détails, et que toute la thyroïde travaille trop, à ce moment-là, la chirurgie est une des options. Les autres options étant des médicaments qui permettent de freiner, contrôler, préparer éventuellement une opération ou suffire dans certains cas, ou d'autres pas. Une autre option, c'est de traiter la thyroïde avec ce qu'on appelle de l'iode radioactif. Il faut savoir que la thyroïde est le seul organe du corps humain qui fonctionne avec de l'iode. Aucun autre organe fonctionne donc avec de l'iode. Donc ça veut dire que si on donne de l'iode à quelqu'un, il va être obligatoirement accaparée par la thyroïde. Et donc, on profite de cette particularité de la thyroïde parce que si on injecte à quelqu'un de l'iode faiblement radioactif, il va se concentrer dans les tissus thyroïdiens et l'endroit qui travaille beaucoup trop, par exemple, sera extrêmement bien visible sur une radiographie qu'on appelle scintigraphie. Donc ça va permettre d'orienter est-ce que c'est toute la thyroïde ou une partie qui travaille trop.
Si Clara s'est rapidement décidée pour l'intervention chirurgicale, elle s'interroge tout de même. Comme sa thyroïde va être totalement retirée, elle devra prendre un médicament substitutif à vie. Ça, et une préoccupation toute simple, la trace visible laissée sur le cou.
Ce qui m'inquiétait un petit peu, c'était la cicatrice. Parce qu'on m'a parlé d'une cicatrice au cou, c'est quelque chose qui est visible, qu'on ne peut pas toujours cacher. Et je me suis dit, bon, il me dit que ça sera dans les plis et du coup, si je connais des gens qui se sont fait opérer, j'ai pu leur demander de me montrer leur cicatrice et j'étais plus rassurée. À part la cicatrice, il y avait aussi le fait de prendre un médicament tous les matins à vie. Je me disais, ben, t'as le choix, soit t'as pas d'enfant et tu prends pas de médicament à vie, mais ça va peut-être, ça va pas t'empêcher peut-être de prendre des médicaments quand même. Soit je prenais juste un seul comprimé le matin et puis j'avais des chances d'avoir un enfant. Donc, bien sûr que ça m'a fait réfléchir, mais je savais que pour moi, c'était pas grave. Ça a plus fait réfléchir mon mari qui était inquiet par rapport à ça. Il me demandait si j'avais bien vérifié à long terme ce que ça pouvait faire, s'il y avait des effets secondaires. Il se disait que c'était plus important d'être en bonne santé soi-même et de bien connaître après les conséquences que d'avoir un enfant. Mais moi, j'étais plus focalisée enfant et je savais très bien que j'allais être prise en charge par des bons médecins et par des personnes conscientes et tout, professionnelles. Je me suis moins posé la question de comment ça va se passer par la suite.
Le remplacement de la thyroïde est assez simple puisque c'est un comprimé par jour, une petite pilule à prendre, la contrainte c'est qu'il faut la prendre tous les jours, qu'on commence dès le lendemain de l'intervention. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le corps humain, on a une réserve en fait de cette hormone qui fait que c'est pas comme le diabète ou d'autres maladies où dès qu'on oublie son traitement, tout de suite, il va avoir des conséquences. Vu qu'on a une réserve d'à peu près une semaine, il s'agit en fait d'entretenir cette réserve. Alors il faut pas oublier ce comprimé puisque si on l'oublie pendant une semaine, alors après on se retrouve dans cette fameuse hypothyroïdie qui a aussi des grandes conséquences. Donc on explique aux gens que s'ils oublient un comprimé, c'est bien moins catastrophique que pour traiter l'hypertension ou le diabète. Par contre, la thyroïde, comme elle est responsable de la gestion de l'énergie, si vous vous retrouvez dans une situation de stress extrême ou d'effort intense, alors les exemples que je donne aux malades, c'est par exemple faire l'Himalaya, ce que tout le monde ne fait pas, mais par exemple une femme enceinte a une demande d'énergie supplémentaire, et c'est aussi la règle d'ailleurs pour tous les gynécologues obstétriciens que chez une femme enceinte, on doit s'assurer de la fonction thyroïdienne au moment patiente devient enceinte, puisqu'elle peut mettre en danger non seulement elle, mais aussi le futur enfant à naître. Donc il ne doit pas être en hyperthyroïdie ni en hypothyroïdie.
Avant l'opération, une phase de régulation est souvent nécessaire.
J'ai démarré avec des traitements qui stabilisaient l'hyperthyroïdie, parce que je ne pouvais pas me faire opérer avant. Et entre-temps, j'ai pris des traitements qui ont stabilisé en diminuant gentiment la dose. Et après, j'étais prête pour directement pour l'opération. Donc, j'ai vu le médecin et même pas deux semaines après, j'étais déjà opérée quand j'ai vu le chirurgien. Après l'opération, tout s'est bien passé. J'ai pas eu d'effets secondaires, de problèmes ou autres, ou de douleurs énormes. Mais je prenais automatiquement les médicaments, les anti-inflammatoires, les antidouleurs.
Globalement, c'est une opération, je dirais, qui va durer entre une heure et demie par côté. C'est une chirurgie qu'on essaie d'éviter de faire en ambulatoire. Pour l'instant, on recommande de passer au minimum une nuit. Si on enlève les deux côtés, donc une thyroïdectomie totale, c'est une ou deux nuits. Il n'y a pas après de véritable convalescence, puisqu'on opère au niveau du cou. Les patients gardent toute leur mobilité, et donc on encourage, comme d'ailleurs pour toute chirurgie, de se lever dès que possible, de reprendre ses activités. Et en dehors de petits problèmes locaux, les gens peuvent reprendre leur activité, conduire, gérer toutes les tâches ménagères. On considère un arrêt de travail en fonction du travail, qui est lors d'une dizaine de jours à deux semaines, ce qui permet aux gens de récupérer aussi de la narcose.
Je me suis sentie mieux assez rapidement. Déjà une semaine après, je sentais la différence dans mes yeux parce que des fois, j'avais l'impression d'avoir un peu de graisse au bord des yeux. Et ça a disparu tout de suite. Et puis, me sentir plus légère, moins fatiguée. Quand je montais les escaliers avant, c'était vraiment, j'avais l'impression qu'il fallait que je prenne l'ascenseur. Même pour soulever le pied pour monter dans le bus, j'avais l'impression que j'avais 100 kilos derrière. Et là, en fait, je me sentais déjà deux semaines après en pleine forme.
Les symptômes vont quasiment disparaître du jour au lendemain. En particulier, toutes les conséquences dangereuses comme la tachycardie, la nervosité ou d'autres manifestations, les bouffées de chaleur, dès que le taux d'hormones s'est stabilisé, donc dans les jours, je dirais, qui suivent l'intervention, tourne dans l'ordre.
Au début de l'opération, la voix change un petit peu et c'est normal. C'est ce que le médecin m'avait aussi dit. Il m'avait dit, ne vous inquiétez pas, il ne faudrait pas vous dire, est-ce que mes cordes vocales ont été touchées. Dans tous les cas, vous allez être contrôlé par un ORL avant et après. Et c'est normal si vous avez une voix un peu rauque ou qui déraille des fois. Et effectivement, là, j'ai la voix un peu rauque. Et des fois, j'ai l'impression que dans la journée, plus ou moins selon la fatigue. Et avec les élèves, j'ai l'impression que je ne peux pas trop forcer. Donc, eux aussi, ils voient que ça déraille un peu et ça les fait rire de temps en temps.
La thyroïde est située dans une zone délicate, au carrefour de plusieurs structures essentielles. Lors d'une opération, tout l'enjeu est de préserver ce qui l'entoure, notamment la voix et l'équilibre du calcium dans le corps.
On doit expliquer aux patients que le premier risque, c'est que de chaque côté, en arrière de la thyroïde, passe un nerf assez spécial, il s'appelle le nerf récurrent. Et ce nerf, en fait, va commander les muscles pour parler, qu'on appelle les cordes vocales. On opère toujours avec des loupes afin de garantir la sécurité tout au long de l'intervention. Et aussi, le deuxième risque très important, c'est qu'autour de la thyroïde, on a quatre autres petites glandes qui s'appellent des parathyroïdes, qui n'ont absolument rien à voir avec la thyroïde, à part leur localisation, c'est-à-dire que la nature les a placés autour de la thyroïde. Donc là où ça devient important, c'est qu'on n'a pas besoin de quatre glandes, il en faut au moins une ou deux. Il y en a deux de chaque côté, et donc chaque fois qu'on opère un côté ou toute la thyroïde, on doit évidemment tout faire pour préserver ces glandes et ainsi leur fonction. Et donc si on opère des deux côtés une thyroïdique dite totale, à ce moment-là, on pourrait mettre en danger les quatre parathyroïdes. Et donc ça, on doit aussi informer le patient qu'on va devoir surveiller au niveau du sang le taux de calcium qui est directement en rapport avec la fonction de ces glandes parathyroïdes.
Une fois l'opération réalisée, il faut encore laisser au corps le temps de s'adapter. Pour Clara, le chemin vers la maternité n'est pas encore tout à fait terminé.
On attend encore avec mon mari parce que même après l'opération, ça doit se stabiliser pour pouvoir de nouveau recommencer un traitement parce qu'on va devoir stimuler tout ça, le corps. On va commencer bientôt, ça sera, je pense, 2-3 mois après.
On l'aura compris, la thyroïde joue un rôle essentiel dans le corps et notamment celui des femmes.
Il y a un peu plus de maladies de la thyroïde chez les femmes, aussi par le fait que si une femme est enceinte, elle va demander une plus grande énergie à son corps, c'est-à-dire que la thyroïde chez la plupart, ou en tout cas une majorité de femmes enceintes, va grandir. Donc le médecin doit rassurer une femme enceinte que si elle a un petit goitre, c'est normal puisque la thyroïde cherche à avoir plus pour fabriquer plus d'hormones thyroïdiennes qui en principe diminuent et retournent à la normale, pas chez toutes les femmes. Donc c'est une des raisons. Après, il y a les interactions avec certaines hormones chez la femme et autres. C'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de maladies thyroïdiennes chez la femme. Mais sinon, il n'y a pas véritablement de facteur de risque pour ce genre de maladie.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Comme d'habitude, vous trouverez des liens en rapport avec l'hyperthyroïdie dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.